Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas. Des petits pas pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler des petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image pour apprendre à vous aimer, pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage. Mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant pour vous permettre à vous aussi de vous interroger sur votre liberté. Alors, ouvrez vos oreilles et laissez entrer la magie dans vos vies.
Épisode numéro 7. Avant de commencer et avant de vous présenter mon invité, je voudrais m'excuser pour le son de ce podcast. Il a rencontré plusieurs difficultés, la perte du son, le son qui traverse l'océan Atlantique, qui a été un petit peu compliqué à gérer. Bref, c'est un podcast en lumière, mais pas forcément en son. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir découvrir Nolwenn Minière, et qui va nous partager ses expériences. On va partir en voyage. Alors, est-ce que la liberté, c'est le voyage? Eh bien, vous apprendrez qu'avec Nolwenn, c'est pas du tout le cas. Même si elle nous partage ses aventures, on va partir de Bretagne pour Paris, de Paris à New York, et enfin de New York à Seattle. Et quel voyage, New York-Seattle! Mais le plus intéressant est certainement ce qu'elle s'est autorisée à faire durant les dernières années, et notamment à devenir doula. Elle nous explique tout cela dans le podcast. Alors sans plus attendre, allons à la découverte de Nolwenn. Belle écoute! Bonjour Nolwenn, je suis ravie de te retrouver dans le podcast. C'est une rencontre assez extraordinaire. Parce que tu es loin, mais tellement loin. Dis-nous tout, qui tu es?
Bonjour Swazik, je suis Nolwenn Minière, je suis maman de deux enfants de 9 ans, je vis aux États-Unis depuis 10 ans, et donc là on est à 9 heures de décalage horaire. Je suis à l'autre bout des US. Du coup, j'ai bougé avec mon mari pour son travail, et de prof de PS, je suis devenue doula et coach périnatale.
Donc, tu es exactement à Seattle, c'est ça?
Ouais.
Mais ton mari est français?
Oui, on est français tous les deux. On a bougé il y a un an, à peu près, avec un bébé de 8 mois, quand lui, il a une opportunité professionnelle.
Absolument génial. Donc, tout quitter, ça relève un peu de la liberté quand même. Tout quitter pour aller s'installer dans un nouveau pays.
C'est ça, ouais, c'était vraiment ça. C'était l'inconnu, la langue pas maîtrisée ma part. Enfin, j'allais faire à l'école, quoi, mais bon, la France et les langues, c'est pas ça. et puis en plus, j'étais anglais LV2, donc ça m'a pas aidée. Mais bon, j'ai plongé et je m'en suis sortie, puisque je suis encore là.
Oui, et puis du coup, tu as créé ta propre entreprise aujourd'hui.
Ouais, c'est assez récent que. Ça fait un peu plus d'un an, c'est bien 2 ans que je sais que faut que ça change. Et ça fait un an et demi que je me suis dit, bon, ok, je plonge, je vais faire ce que je vais faire. Et puis, c'est un an que j'ai, à peu près un an que j'ai ma boîte. Mais oui, c'était vraiment une question de, c'est un chemin qui m'a mené jusqu'à là. L'expatriation n'y est pas pour rien, je pense. Mais c'est vrai qu'il a fallu s'autoriser justement de prendre cette liberté, de faire autre chose et de faire ce qui me plaît vraiment aujourd'hui.
Et comment on passe de prof de PS à doula ?
En fait, c'était pas si direct que ça. Donc moi, j'ai exercé à Paris en tant que prof de PS dans les écoles élémentaires à la base. J'ai posé ma disponibilité pour suivre mon mari, du coup. Au début, on était à New York. J'ai enseigné encore le PS en école franco-américaine. J'ai fait de la coordination after school scolaire. Et donc, à New York, il y avait des postes comme ça. Donc, j'ai pu travailler pendant 2 ans dans des écoles franco-américaines. Et quand on a bougé à Seattle, il n'y avait plus de postes comme ça en école franco-américaine. Donc, j'ai fait des boulots toujours dans son immersion française. J'ai géré des bouts de 2 ans en immersion française dans une toute petite structure qui était un peu crèche maternelle. C'est un peu entre les deux. J'ai travaillé aussi dans l'école franco-américaine de mes enfants en tant qu'assistante de prof, mais bon, pas le dream job, quoi. Surtout après avoir été prof. Même si, voilà, je suis convaincue de ce que j'ai pu apporter à ces petits bouts, mais c'était pas ce qui m'épanouissait vraiment clairement. Et de là, on a fini cette année scolaire à la maison. Après, on a choisi de faire l'école à la maison. On a pris des programmes en ligne américains et français. Donc, double. bon gros challenge. Avec mes 2 loulous. Donc ça, c'était le genre de projet que j'aurais jamais envisagé dans un autre contexte. J'ai jamais, même en étant prof, mon certes de PS, j'aurais jamais pensé faire l'école à la maison. J'ai pas jamais aspiré à ça. Et puis, finalement, c'était le meilleur choix pour nous à ce moment-là. Donc, j'ai démissionné, on a sorti les enfants de l'école et puis on a géré l'année. Quoi. Au moins, on n'était pas avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ça ferme pas, faut faire ci, faut faire ça, on peut pas. Au moins, on gérait notre truc, on n'avait pas cette incertitude, on savait que nous, on faisait comme ça. Donc finalement, on avait plus de liberté d'action en faisant comme ça, tu vois.
Ah oui. Et bien justement, c'est quoi la liberté pour toi ?
La liberté, c'est vraiment une notion en multiples facettes, je trouve. Quand je réfléchissais à ta question, du coup, juste avant, je pensais à la liberté d'être, juste d'être soi-même, sans craindre le jugement extérieur notamment. Et ça, je crois que c'est le travail d'une vie, quand on n'a pas été dans cet état d'esprit ou cette façon de voir les choses dès le début, on va dire. Donc ouais, ça, je pense que c'est un gros morceau et ça se travaille, ouais, vraiment tous les jours, ouais. Finalement. La liberté, ouais, du coup, de choisir, de devenir qui on veut être, d'évoluer comme dans le sens où qui est parlant pour nous, en fait, faire ce qui fait sens. D'ailleurs, dans ma reconversion, c'était plus de sens, plus de liberté. C'était un peu les 2 mots qui m'ont drivé dans cette évolution-là. Ouais, tout ce qui est liberté de temps, de planning, d'organisation, tout ça, c'est un briquet, en fait. Ouais. Et c'est ce que je recherchais aussi, finalement, dans l'entrepreneuriat, même si tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit, moi, entrepreneur, mais bien sûr. Et finalement, on y arrive. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette liberté-là. Alors, bien sûr, quand on démarre, il y a plein de choses à apprendre et il n'y a jamais rien de parfait tout de suite. Et puis même après, je pense que ça évolue tout le temps l'expérience, avec la façon dont qu'on voit et qu'on revoit les choses.
Bah oui, c'est clair. Parce que dans ton parcours, moi, ce qui m'a amené là, en fait, à être en face de toi et à te convier à ce podcast, c'était de se dire que quand on parle de liberté, en général, on parle effectivement de voyage. Et toi, tu as fait un grand saut dans l'inconnu en se disant, mon mari, il accepte une mutation, je pars avec lui, voilà, avec un petit bout. Déjà, cette idée-là, cette forme-là de liberté, de s'autoriser à pouvoir partir, à tout quitter, à laisser la Bretagne. À laisser la Bretagne, j'ai bien dit, parce que Nolwenn, elle est de Bretagne. oui, à laisser la Bretagne.
Ça fait un peu mal. J'avais quitté la Bretagne, j'avais fait mes études à Angers et après, j'ai travaillé à Paris. Donc, tu vois,
j'avais détaché.
J'avais une évolution, tu vois, je ne suis pas allée directement de la Bretagne à Paris, ça aurait été un peu rude.
Ben oui, et du coup, moi, je me dis, c'est cette notion, alors qu'on met tout le temps sur le voyage en parlant, la liberté, c'est le voyage, parce qu'on peut aller partout dans le monde, effectivement. Mais c'est aussi pouvoir s'autoriser à aller vivre ailleurs. Et vivre, ça veut dire recommencer quelque chose, enfin, recommencer des contacts, recommencer, c'est prendre en main sa vie pour pouvoir créer un nouvel environnement. Et puis toi, tu as fait un deuxième pas qui est de créer encore, d'accéder à un autre niveau de liberté qui est effectivement de devenir entrepreneur. C'est s'autoriser à être entrepreneur dans un pays qui n'est pas le sien, en ne connaissant pas les lois plus que ça. C'est un sacré challenge que tu t'es mis.
Déjà, quand tu parles du côté voyage, moi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans ma vision étant beaucoup plus jeune. Par contre, quand j'ai rencontré mon mari qui, lui, avait le virus du voyage, qui avait la bougeotte, je savais qu'en vivant avec lui, à un moment donné, il se passerait un truc. On ne savait pas où, on ne savait pas quand. Donc déjà, ça a été ça aussi un chemin. Et donc, quelque part, je me suis faite à l'idée qu'un jour, on bougerait. Mais on ne savait pas quand. Et puis, quand ça s'est décidé, il cherchait clairement. Il l'a su, genre 4 mois après, on partait, en fait. Donc moi, je revenais de congé mat, j'ai recommencé à la Toussaint... dans mon boulot, et en fait, en février, on partait. Ça a été assez...
Ah oui, les élèves, ils n'ont pas eu le temps de s'habituer à toi. Hein.
Moi, je les retrouvais, donc ça allait pour la plupart, mais ouais, non, c'est sûr, c'était... Donc, quand j'ai repris, je ne savais pas encore que je n'allais pas reprendre longtemps. Donc, c'est vrai que ça a été assez express, et non sans peur, il faut être honnête. Moi, j'avais vraiment la trouille de l'inconnu, mais bon, après, je me disais que ça devait forcément être très riche, et que j'allais apprendre plein de choses, et que ça allait ouvrir à d'autres possibilités. Finalement. Et puis bon, l'idée c'était bien de continuer à travailler, pas de me retrouver forcément dans mon foyer.
Et comment du coup tu vis cette liberté dans le pays, alors entre guillemets, des libertés ? Parce qu'on voit les États-Unis comme le pays de la liberté. Et alors comment on vit la liberté là-bas ?
En fait, moi je sais pas, c'est pas vraiment en rapport avec le côté pays des libertés. Le fait de partir loin, je crois que je me suis autorisée à notamment élever mes enfants, comme finalement ça faisait sens pour moi. J'ai appris plein de. Enfin, je me suis renseignée. Pourtant, c'était beaucoup de contenu français. Et j'ai élargi mes perspectives et je suis allée vers d'autres horizons qui me parlaient beaucoup plus. Et ça fait partie de mon cheminement, justement, en tant que maman, qui m'ont amenée à ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
Mais il y a eu ce côté-là pour moi qui était vraiment important, où il n'y avait pas justement ce jugement. Ouais, je pense que ça m'a. Offert cette possibilité-là, disons, de façon plus aisée, sans avoir ce sentiment de devoir rendre des comptes, d'être jugé plus fréquemment. Ça n'empêche pas que ça arrive quand on rentre, mais c'est pas grave. On essaie de dealer avec. Mais il y a ça m'a ouvert un peu. C'était m'autoriser à faire autrement, finalement, et faire les choses de façon plus alignée avec mes valeurs. Et après, quand tu me demandais par rapport à l'entrepreneuriat, comment j'en suis venue à ça. Je te dis, il y a quelques années, je te disais, je n'ai pas fait d'école de commerce, j'y connais rien en business, qu'est-ce que tu veux que moi, j'aille faire là-dedans ? Comment je pourrais faire ça ? Et en fait, j'ai eu plusieurs fois des copines ou la famille à qui je m'arrange bien, qui m'a dit, mais tu devrais monter ton truc. Là, notamment, ça vient du prof de PS, un peu la motricité, c'est mon truc quand même. Je suis très motricité libre pour les bébés, tu vois, vraiment les laisser évoluer. Par eux-mêmes, arrêter de vouloir leur apprendre à s'asseoir, à marcher, laisser les faire, en fait, dans l'idée. Et du coup, elles apprenaient aussi des trucs avec moi, et elles me disaient, mais c'est génial, mais les parents, ils ne savent pas, en fait, donc tu pourrais leur dire, comme ça, ils seraient au courant, et du coup, ils pourraient faire en connaissance de cause, parce qu'effectivement, tu fais toujours de ton mieux avec ce que tu sais, si tu ne sais pas, donc c'est clair. C'est valable pour tout.
Ouais.
Du coup, elles me balançaient ça comme ça, et c'est vrai que sur le moment, je te dis, ouais, bien sûr. Mais petit à petit, je pense que ça a quand même planté des graines. Quelque part, tu vois, avec le recul aujourd'hui. Et quand à la sortie justement de l'école à la maison là, de cette année-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repostule à faire assistant dans les écoles franco-américaines ? J'ai pas envie, en fait. Et là, c'était reconnaître que, ok, en fait, j'ai pas envie. Et à la fin d'ailleurs de cette année-là, j'avais postulé sur un poste, et pourtant, c'était coordinateur after school plus prof de PS, là, c'est secondaire, mais peu importe. Donc, sur le papier, c'était mon profil. Ça collait. C'était pour moi. J'ai postulé parce qu'on m'a dit que quand même, j'aurais postulé et que ça valait le coup et tout, ça serait trop bien. Mais j'étais tellement pas alignée, en fait, avec ça. J'avais pas envie. Et je pense que j'ai pas été prise. Alors du coup, ça faisait un petit coup à l'ego, peut-être. Tu vois, c'est pas très intéressant non plus, mais finalement, ça a joué quand même. Dans mon punaise, ils m'ont pas prise. Mais en même temps, je suis sûre que pendant l'entretien, ils devaient sentir que j'avais pas envie, tu vois. Consciemment, inconsciemment. Mais...
Ben oui.
J'essaie d'être convaincante et en même temps, j'essaie d'être honnête sur le fait que je voulais avoir un peu de liberté sur les horaires et ils avaient l'air de m'en laisser, donc je me suis dit, allons-y là. Mais bon, ouais, j'étais pas vraiment dedans et ça me faisait pas vibrer. Hein.
Et heureusement.
Ouais, mais tellement, tellement. Alors c'est sûr que c'était encore une histoire de stabilité, d'un emploi avec ton salaire qui tombe tous les mois, c'est rassurant, clairement. Pas encore à ça non plus, je veux dire, ça se construit. Hein. Il faut se faire connaître, etc. C'est tout. J'apprends tout le temps.
Ben oui.
J'apprends plein de choses. Ouais, je sais que j'avais la clarté à un moment donné de me dire je veux pas retourner dans le système éducatif. J'ai pas envie de retourner dans une boîte, de devoir faire avec toutes les contraintes et tout, et du coup de pas faire selon ce qui est important pour moi avec ce que je connais maintenant de l'enfant, du développement de l'enfant. Quand postulé, j'aurais pu choper un job assez facilement, je pense. Mais voilà, là j'étais claire que je voulais plus. Bon, en même temps, j'ai accompagné le retour à l'école et la deuxième rentrée de mon fils qui était très compliquée. Donc, ça m'a bien rincé cette rentrée-là aussi. Et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Il faudrait vraiment que je me bouge. Et du coup, j'ai pris un coach, pour faire une introspection, voir vraiment ce qui me plaisait, commencer à voir vers où j'allais, comment structurer les choses. Parce que toute seule, j'étais perdue.
Mais c'est génial ce que tu dis parce que il en faut. Alors, je ne sais pas si c'est du courage ou je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais se dire qu'on n'est pas capable tout seul. Parce qu'en fait, on a les mêmes mécanismes. Donc, tu as beau essayer d'essayer de t'en sortir tout seul de ton côté. En fait, c'est juste impossible puisque tu roules dans les mêmes schémas. Donc, en roulant dans les mêmes schémas, tu ne sors pas de ton schéma. En fait, tu vas reproduire exactement la même chose. Il faut qu'à un moment, c'est un peu ça les podcasts, c'est un peu à ça qu'ils servent aussi. C'est, tu vois, d'arrêter d'être dans le même schéma et de se dire « Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui fait autrement. Il y a quelqu'un qui peut… » En fait, c'est inspirer les autres et j'aime beaucoup ce que tu fais parce que je me dis, mais combien tu peux inspirer de gens? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il t'arrive telle ou telle chose que enfin tu t'autorises à être ou à faire des choses qui ne sont pas comme d'habitude. Tu vas être loin du jugement des autres. Ok, s'il faut partir pour sortir du jugement. Ok, s'il faut sortir de sa zone de confort. Ok, tout ça en fait. Parce que c'est pour le meilleur, c'est pour toi. C'est pour cheminer, pour t'ouvrir des portes en fait. Ou juste les franchir si elles sont ouvertes.
Ouais, c'est tout un chemin, toute une évolution. Et c'est vrai que... En fait, j'ai ressenti le besoin de partager tout ce que j'ai appris, en fait. Tout le chemin que j'ai fait sur l'éducation, sur... En fait, c'était ça, j'avais envie de transmettre ça. Moi, je suis partie de ça, en fait. Quand tu me disais comment je t'arrivais de prof de PS à Doula, Doula, c'est arrivé qu'après, en fait, dans ma démarche, dans ma réflexion. Je voulais vraiment partager tout ce que j'avais appris sur l'évolution de l'enfant, sur tout ce qui est émotion, communication. C'est par la mentalité plus bienveillante, respectueuse, consciente. Je suis arrivée au terme de conscience plus tard, d'ailleurs, dans tout ce process d'introspection. Et c'est vrai que c'était... Ouais, je suis partie de là et je voulais accompagner plus à la parentalité, ouvrir les perspectives, se mettre à la hauteur de l'enfant. En fait, et puis l'idée, c'est vraiment de construire des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus respectueuses, tu vois, des relations horizontales entre adultes et enfants. Et la grande vision, c'est pour un monde meilleur, sans violence, tout ça, tu vois.
Ben oui.
À un moment donné, il y en a plein qui offrent comme ça. J'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
Ouais, et je te comprends. Et j'aime beaucoup aussi la notion que tu as abordée tout à l'heure, c'est la motricité libre. Oh, c'est bizarre, on parle encore de liberté. Parce que, en fait.
Oui, ça ne va pas percuter, bien vu.
Tu vois, c'est en fait, cette notion de liberté, on peut la trouver dans tellement de plein de choses. Et je reviens aussi sur le fait que tu t'es autorisée à faire l'école à tes enfants à la maison, mais ça aussi, ça participe au chemin en fait qui t'a permis certainement d'aller à qui tu es aujourd'hui parce que du coup, tu as vu que c'était possible. Moi, je pense que le Covid, il a apporté énormément de choses à plein de gens en se disant « Ah, mais je suis capable de faire de cette façon, je suis capable de… » Ah ouais, mais alors, pas besoin d'attendre le Covid prochain. La pandémie prochaine, on est bien d'accord, on peut très bien s'autoriser des trucs parce que justement, en faisant des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, en se disant je vais apprendre à le faire ça. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas si ce sera bien ou pas bien, on s'en fiche du jugement, mais je vais essayer parce que de toute façon, si je n'essaye pas, on ne sait pas. En fait, on ne peut pas avancer. Si tu n'essayes pas, tu n'avances pas. Et comme les émotions, c'est le moteur, tu sais, c'est... si tu vibres effectivement à l'intérieur et que tu sens que tu as envie de faire quelque chose, mais vas-y. Parce que ça va être encore plus fort, la vibration.
Ouais, c'est ce que je découvre, je pense, sur ce chemin-là de l'entrepreneuriat. Parce que tu vois, autant l'école à la maison, ça a été une grosse décision. Et ça a été un peu du dernière minute de prendre la décision de vraiment démissionner, puis de me dire, bon, bah là, cocotte, faut que t'assures quand même. Hein. Parce que là, c'est une année entière. Les deux doubles programmes qu'on m'a fait en CP, heureusement, c'était encore en maternelle, donc c'était un peu plus light en anglais. Mais heureusement que j'avais quelques années aux États-Unis déjà pour pouvoir gérer les cours en anglais, quoi. Même s'il y avait tout le support qui était là, qu'on a pris en ligne. C'était un sacré challenge. Et oui, on a relevé le défi. Donc clairement, ça rend plus fort aussi quelque part. Ça, je suis bien d'accord. Et après, pour le côté l'émotion qui est le moteur, bah, je l'ai ressenti, ce côté vibration, justement quand je me suis décidée à faire une formation de doula. Parce qu'au départ, c'est vraiment axé sur la parentalité avec tout un tas de sujets qui me passionnent vraiment. Et à un moment donné, bah, je suis remontée sur le postpartum parce que c'est quand même un gros morceau. Et puis, bah, tout commence avec la naissance. Puis j'adore, tu vois, je regardais tout le temps des vidéos de naissance, tout ça. Donc, il y a quand même un vrai intérêt autour de ça quand même. Et notamment physiologique. Justement, la liberté de faire autre chose que le système médical a tendance à imposer. Du coup, j'hésitais. Ça faisait quelques mois que j'hésitais à me dire tout là, pas tout là, je ne sais pas, ça ne me parle pas vraiment. Et il y a un moment, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, pourquoi. Ça a été clair. C'est genre, si, je vais faire la formation, mais je vais faire et postpartum et naissance. Je veux trouver une formation qui fait le combo des deux, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en plus. Et je ne pensais pas être doula naissance à ce moment-là, mais je voulais toutes les connaissances pour pouvoir accompagner les parents sur l'ensemble, en fait, pour qu'ils aient une personne qui puisse leur apporter tout ça. Et du coup, à ce moment-là, c'était... ça vibrait partout. J'ai trouvé une formation. Alors, de toute façon, tout était en ligne à ce moment-là, donc à distance ou pas, c'était en ligne. C'était basé à Toronto. Ça a commencé genre 10 jours plus tard. Je me suis inscrite, boum, c'était fait, quoi. Donc, et j'avais créé ma boîte juste avant. Je ne savais pas encore que j'allais être là, tu vois, aussi.
C'est fou quand même, c'est fou.
Ouais, ah ouais, ouais. Et avant, je sais qu'on me poussait, mais il faut que tu fasses une formation, il faut que tu sois reconnu, que les parents soient rassurés, que tu as quand même des formations concrètes, professionnelles, tout ça. Je disais là, bah ouais, je veux bien, mais je ne veux pas faire un truc. Pour faire un truc et mettre sur le papier, c'est joli, quoi. Je veux faire un truc parce que vraiment, c'est ça qui me parle à ce moment-là. J'ai plein d'autres idées de formation, mais je les ferai quand j'aurai le déclic, que ok, c'est ça et c'est maintenant, en fait.
Bah oui, c'est ça. Ah, c'est beau.
Ouais,
hein.
Ça a été le feu.
Ah, ça.
Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et pour autant, tu vois, j'ai fait donc la formation assez vite. Donc, du coup, j'avais aussi un décalage horaire de 3 heures. Donc, c'était pendant 6 jours, c'était 5h30 du matin au taquet. Je finissais du coup à 2h30. Donc, en fait, à leur pause, qui n'était pas toujours calée sur mes pauses repas ou autres. Des fois, je faisais la sieste au milieu. Enfin, bref, je me débrouillais. Puis, je dormais encore un peu après si je pouvais. Mais bref, ça s'est fait. C'était 6 jours. Je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Donc voilà, il y avait du sens dans tout ça, de le faire. Mais après, ça m'a pris du temps de me dire, ouais, je suis doula. Parce que j'avais le côté, je ne suis pas que doula. Parce qu'il y a comme tout le reste que j'ai travaillé avant, et j'avais même travaillé une offre parentalité plus spécifiquement. Avant, c'est vraiment là où je mets tout ce qui m'intéresse dedans, et pour accompagner vraiment de façon globale, et que ce soit avant ou après la naissance. Et en ligne notamment, pour être disponible pour plein de gens partout. Et du coup, ouais, ça m'a pris du temps de me dire, je ne suis pas que doula, mais je suis doula quand même. Et en fait, c'est beau aussi d'être doula. Et j'avais un côté, tu vois, je voyais ça de façon un petit peu réducteur alors que ça ne l'est pas. Et que doula, ça peut être plein de choses. Et toutes les doulas sont différentes, ont des spécificités, des formations spécifiques. Et on vient toutes dans ce domaine avec notre bagage, en fait, avec ce qu'on a vécu aussi. Et du coup, bah, c'est en fonction de notre vécu qu'on va plus ou moins accompagner. Il y en a qui vont être à fond accompagner les césariennes parce qu'elles l'ont vécu de telle ou telle façon. Et, que voilà. Et chacune a son angle d'approche, en fait. Donc, ce qui fait que ça fait un large choix pour toute la diversité de parents aussi qu'ils peuvent trouver à la personne.
C'est beau ce que tu dis parce que c'est valable pour toute chose, en fait.
Ouais.
Parce que, quelle que soit la formation que tu fais, il y a tellement de toi que forcément, ton offre, quelque part, ne peut être qu'unique. Moi, j'aimerais bien faire comprendre ça aux gens. Tu vois, dans mes accompagnements, c'est un des moteurs principaux, c'est d'arriver à comprendre que tu es unique. Parce qu'il n'y a que toi à avoir eu ton histoire. Il n'y a que toi à avoir choisi de faire telle et telle formation. Et même dans un groupe de formation, eh bien, en fait, tu es avec des gens qui font d'autres choses. Il n'y a personne qui a ta sensibilité parce que ta sensibilité, elle t'est mais totalement propre, quoi. personne peut avoir quelque chose de cette sensibilité que tu as toi, puisque bah, tu es unique. Donc, j'adore ce concept, en fait. J'adore ça. J'aime beaucoup, en fait. Bon, c'est pour ça que je le travaille un petit peu aussi, quoi.
Étonnant.
Oh, c'est étonnant.
Ah ouais, non, c'est sûr que c'est la richesse, justement, de chacun qui a quelque chose à apprendre. Et ici, en tout cas, là, au niveau local, je ne sens pas de... Enfin, globalement, il n'y a pas de rivalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont un peu là-dedans quand même, parce que bah, voilà, chacun fait avec son bagage, tout ça. Mais globalement, il y a plus un sentiment d'entraide, des collègues. Y a pas de... Parce que tes rivalités, chacun apporte ce qu'il a apporté.
Tu as des collègues américaines, j'imagine ?
Ouais. Networking au niveau local, c'est surtout américain.
Ouais. Et donc, comment tu travailles avec elles ? Comment ça se passe ? Une petite Française qui arrive là ?
Bah écoute, j'ai commencé vraiment le networking en début d'année, là, 2023. Donc, pareil, sortie de ma zone de confort, même si voilà, on n'aime pas ce terme. J'aime bien, tu vois, mon calme, faire mes trucs et tout. Et je suis pas une grande. Enfin, je suis plutôt introvertie, objectivement. Hein. Et du coup, voilà, c'était vas-y, allez, sors, montre que tu existes, que tu es là et que, voilà. Et que du coup, tu peux soutenir aussi plein de familles parce que si personne ne me connaît, bah, je ne peux pas t'aider des gens. Alors, c'est quand même l'objectif premier de monter ma boîte.
Ben oui.
Donc, du coup, je suis allée à des, ce qu'ils appellent des walk and talk, tu vois, des rencontres entre doulas ou des fois doulas parents pour rencontrer bah, les doulas locales. Et du coup, ça commence seulement, tu vois, de temps en temps, il y en a une qui m'envoie quelqu'un. Et, enfin, en tout cas, un contact. Et puis après, advienne que pourra, tu vois. Tu sais jamais si ça va fitter, mais ça commence seulement, tu vois. Et j'en ai fait quelques-uns.
Ouais.
Mais du coup, non, c'est vrai que des fois, il y a toujours la langue où j'ai l'impression que je ne vais pas me faire bien comprendre, mais bon. On fait tout son mieux, puis globalement, les gens sont indulgents.
Ouais.
Ça va. C'est juste que des fois, tu répètes, alors tu pensais que c'était clair, mais ça ne devait pas être.
C'était pour toi que ce n'était pas clair, en fait.
N'empêche, ouais, des fois, ouais, tu te dis, ou alors tu faut se présenter, et puis tu te présentes, et tu te dis, mince, j'ai encore oublié un truc. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je serai mieux. C'est partie de l'apprentissage, hein, clairement.
Exactement.
Mais du coup, non, ça se passe bien, c'est plutôt accueillant, on peut travailler en ce qu'on appelle en backup. Que ce soit en naissance, maman postpartum, mais j'ai fait plus de naissance là. Comme ça, si jamais tu as un souci, tu peux pas aller sur la naissance ou que tu es sur une autre naissance et que les deux se décident en même temps, bah, tu peux appeler la collègue qui est d'astreinte en fait, du coup, en parallèle, et pour qu'elle aille sur la naissance que tu peux pas assurer.
Ah,
si tu es malade et que tu peux aller, tu vois, ou un truc comme ça.
Ah oui.
Donc, ça, c'est partie des collaborations que j'ai commencé, moi en tant que backup, hein, j'en ai fait. Tu vois, et pour l'instant, et dans tous les cas, les naissances qui arrivent, je prends des backups aussi. Ça permet de rentrer plus connecté en fait avec certaines douleurs.
Super.
Tu peux voir une fois avec l'une, ça marche. Après, tu te rends compte que elle en fait ça marche pas tant que ça, donc tu vas peut-être aller voir plutôt une autre. Et puis en fonction de la personnalité de la cliente, du coup, plus j'en connais, plus je me dis que ouais, c'est ma cliente actuelle, là je suis en train de gérer justement du backup, et par rapport à sa personnalité et tout, je suis plus taper là que là, tu vois.
Donc, ouais.
J'essaie d'ajuster en fonction des disponibilités aussi.
Bah oui, c'est clair.
Mais bon. Non, mais c'est sympa. Puis il y en a certaines avec lesquelles, tu vois, il y a cette envie de partager aussi et de contribuer. Qui sont un peu plus expérimentées. Et c'est vraiment chouette parce que, voilà, il y a des espaces d'échange possibles.
Ben oui, c'est génial. C'est génial. Alors, qu'est-ce que tu dirais ton premier petit pas vers cette liberté ?
Alors j'ai bien réfléchi à cette question-là, elle m'a retourné le cerveau au début.
Oh là là.
Non, mais au départ, j'étais un peu bloquée en mode, c'est quoi vraiment le premier, je sais pas.
Ou les premiers.
Ouais. Je suis partie chez mes parents, je sais, pour faire mes études, mais bon, ça faisait partie du schéma un peu classique, quoi, même si je savais pas que je sortirais de la Bretagne. En fait, je dirais le premier pas vraiment... personnel où j'ai pris ma décision, c'était de participer au concours de prof de PS de la ville de Paris en parallèle du CAPEPS que je repassais. Et en fait, je me suis inscrite, j'y suis allée, j'ai rien dit à personne, moi, à part à mon chéri, mon mari. Et j'ai pas dit à mes parents, c'était en mode vas-y, je le tente, on verra, mais bon, je reste dans mon truc, genre, ne me demandez rien. Et à partir du moment où j'étais admissible aux écrits, je crois que j'ai commencé à en parler un peu plus, mais bon, surtout que je pensais les avoir plantés, donc déjà, c'était une grosse étape de passer. grâce à la méthodologie, parce que j'avais un des deux écrits qui était vraiment vide de sens. J'avais mis plein de cadres avec du vide dedans, c'est passé. Ils m'ont pas mis la note éliminatoire.
Oh bah écoute, ce qui importe, ouais. c'est effectivement que tu aies réussi, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est effectivement, c'est un petit pas vers soi où tu t'es autorisé discrètement à faire quelque chose pour toi. C'est ça ?
Oui, surtout c'était c'était ça. En fait, c'était pour moi, pour nous, parce que je savais que mon mari allait se poser un peu plus à Paris à ce moment-là et que c'était la première occasion, 4 ans et demi après, depuis qu'on était ensemble, qu'on pouvait peut-être vivre ensemble. Donc, c'était moi. En fait, c'est une belle opportunité.
Ah oui.
Ouais, c'était quand même la motivation parce que moi, aller à Paris, à la base, c'était niette, tu vois. Il y a quelques années avant, c'était genre, moi, à Paris, mais tu rigoles, jamais de la vie. Donc, voilà, tout évolue.
Qu'est-ce qu'on fait par amour ?
Ah ouais, t'as vu.
Bah oui.
Mais du coup, ouais, c'est clair que c'était la motivation aussi. Et puis, bah voilà, après, j'ai été aux pratiques, et puis j'ai été à l'oral, et puis c'est passé, quoi. Donc, autant te dire que le CAPEPS à côté, j'étais en mode, ouais, je l'ai passé, histoire de dire qu'elle d'aller au bout, parce qu'on m'avait appris qu'on n'en lâche pas un truc au milieu. Mais bon.
Ah, c'est dur de lâcher.
c'est compliqué. Hein. Et du coup, voilà, et quoi, c'est comme ça que j'ai pu arriver à Paris et démarrer ma carrière de prof de PS à Paris. Et vivre avec mon chéri.
Ah bah oui. Et de quelle couleur est ton bonheur ?
Mon bonheur. Alors, j'ai hésité, en fait, j'ai tendance à hésiter entre le bleu et le vert. Alors, du coup, j'avais tendance à dire turquoise.
Ah, c'est beau aussi, c'est joli, turquoise, c'est beau.
Et je pensais au bleu parce que j'aime la mer, l'océan, l'eau, en fait, les lacs. Et le vert parce que j'ai besoin de la nature pour m'ancrer, pour m'apaiser. Comme tu vois, les lacs, ça fait des lacs miroirs et ça fait tout vert aussi, des fois. Ou des fois, c'est miroir quand c'est tout vert. Enfin, voilà, en mode turquoise aussi. Mais voilà, tout ce qui est...
T'en as plein, là, autour de chez toi, des lacs.
Ouais, c'est trop bien. Ah non, mais là-dessus, je suis...
Allez, fais-nous rêver. On va aller à Seattle te voir.
Non, mais c'est une région incroyable. Non, il y a plein de... On est entouré par les montagnes. On est à 3 heures de l'océan.
Ah oui, c'est tout.
Les montagnes... Ouais, enfin, pas selon où tu veux aller sur la côte de Washington ou d'Oregon. Mais ouais, c'est 3-4 heures de l'océan. Les montagnes, l'hiver, on peut aller skier à 3-4 heures de la maison. On y va à la journée. Donc ça, c'est un truc en France, ça paraît assez aberrant avant. Aujourd'hui, c'est normal.
Ah oui.
Donc on va skier toute la saison, on y va tous les week-ends, voire des fois en semaine après l'école. C'est aussi jouable quand c'est ouvert plus tard le soir. Et d'ailleurs, ça nous a sauvés pendant qu'on était en l'école à la maison. On a eu une super saison de ski qui a commencé tôt, qui a fini tard. C'était notre bouffée d'oxygène, mais c'était magique.
Ah, c'était ouvert chez vous ?
Ouais, c'était ouvert, mais alors c'était masqué. Et il y avait une limite. En fait, ils avaient vendu moins de forfaits. Donc du coup, il y avait moins de monde aussi. Et je dois dire qu'aux États-Unis, je n'ai jamais vécu une file d'attente ski contre ski, enchevêtré, tout ça. Ça n'existe pas ici. Les gens sont un peu plus respectueux des espaces, tu vois. On est plus à distance. Et puis, pour le coup, avec le contexte pandémie, les gens faisaient encore plus attention. Mais ouais, non, même en temps normal, avant la pandémie ou après, ouais, tout ce côté, même quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a une grosse queue, on n'est pas les uns avec les skis complètement enchevêtrés. Enfin, voilà, moi, j'ai connu ça en France, en fait. Ici, non, ça n'existe pas. C'est comme, tu vois, les gens, ils font la queue pour le bus, ils font la queue en ligne et puis ils montent chacun leur tour en fonction du temps où ils sont arrivés. Les gens sont civilisés, en fait.
Ah, d'accord. Ça n'existe pas, des gens qui bourrent pour rentrer dans le bus, en fait.
Non, c'est vraiment l'exception, quoi. Après, j'ai pas pris le bus, c'est mon mari qui m'a raconté au début quand lui, il a eu besoin de prendre le bus. Mais ouais, il me dit, non, mais c'est dingue. C'est fou, en fait, tu dis, c'est des trucs qui paraissent, quand ils pensent, ça devrait être la base de respect des autres, des règles, voilà. Et ici, c'est normal, en fait. Oui, il y aura toujours des exceptions, parce que...
Ils sont partout, hein.
Mais c'est partout, quoi.
Oui.
mais voilà, même en voiture, globalement, s'il y a deux voies qui se rejoignent, ça va globalement être une voiture sur deux et ça va se faire tranquillement.
D'accord.
Donc, t'as ce côté-là où, ouais, quand tu rentres sur Paris, t'arrives en voiture sur Paris, mais c'est d'une violence. Moi, ça me rend malade, des fois. C'est insupportable.
Ouais, il faut venir direct en Bretagne, alors.
Ouais, mais bon, on a des potes à Paris aussi.
Ah oui.
On essaie de montrer les musées aux enfants. Enfin,
mais oui.
Découvrir des choses quand même avant de faire tout le tour. Ouais. Mais bon. Mais oui, du coup, on est très bien ici, dans les grands espaces.
Ouais.
C'est hyper reposant. Moi, c'est vrai que c'est un truc... fait beaucoup de bien, ouais, quand on peut se balader, découvrir de nouveaux espaces dans la région. Et puis après, on a cette liberté et on la prend, parce qu'il y en a qui ne la prennent pas. On prend la voiture et on n'a pas peur de faire 2 heures de route, aller plus 2 heures retour sur une journée pour aller faire un trail là-bas, voir tel lac et tout.
Oui.
Parce que c'est le genre de truc qui va freiner beaucoup de gens au final. Ou alors ils ont des enfants, bah non, ils ne vont pas aller faire un trail ou pas là ou pas machin. Bah non. Mais...
C'est ça. Moi, j'avais acheté un camping-car pour trimballer les enfants, bah, parce qu'ils étaient petits. J'en avais 3 qui avaient quasiment le même âge. Enfin, j'ai des jumeaux et une aînée qui a juste 1 an et demi de plus. Et les miens faisaient la sieste. Donc, j'habitais à la montagne, dans le fin fond d'une vallée. Et donc, pour déjà sortir de la vallée, il fallait faire 1 heure. Et quand tu avais fait 1 heure, tu n'avais rien fait, en fait. Tu étais à Grenoble. Donc, à Grenoble, sauf si tu vas voir effectivement un musée, mais bon, tu vas pas avec des gosses de 4-5 ans, t'as tant qu'ils aient un peu plus de maturité, quoi. Enfin, bref. Et ben, du coup, tu vois, il fallait faire 1 heure derrière, ben, 2 heures, 4 heures dans la journée. Ben, pour moi, ça me paraissait difficile avec des petits. Du coup, j'avais acheté un camping-car, un vieux que j'ai toujours, qui me sert de bureau actuellement dans le fond du jardin. Ça, c'est ma liberté à moi, tu vois. Et ça nous a permis, ça nous a sauvés, en fait, pendant 4 ans, 5 ans, où on était, en fait, on prenait le camping-car le vendredi soir ou le samedi matin, et puis on s'interdisait rien, parce que du coup, on est allé dans tous les sens. Tu vois, c'était génial. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à une copine qui me dit qu'elle arrive de région parisienne et qui est à 40 km de Limoges. Et ça ne lui pose aucun problème de faire ces 40 minutes, ou 40 kilomètres, 40 minutes, on va dire, de distance pour aller chercher les gens à Limoges. Ça ne pose pas. Et quand elle me dit, moi, il faut faire 40 kilomètres, je fais, ah, c'est loin quand même.
Ouais, ça dépend de notre référentiel. Hein.
Et c'est ça. Et elle, comme elle arrive de région parisienne, elle me dit, bah non, moi, j'ai l'habitude. Moi, je 1h30, c'est raisonnable. Oh, mais 1h30, tu ne te rends pas compte. Mais c'est super long. En fait, c'est comme un peu la liberté. En fait, on a chacun nos référentiels et c'est difficile de sortir de ces référentiels, en fait.
C'est pas du jour au lendemain.
Voilà, c'est ça. Donc, je comprends que, bah oui, les grandes étendues sauvages de l'Ouest américain, c'est tentant.
En fait, je pensais que c'était des road trips. Il y a une fois à Noël, on était parti à l'arrache, on est descendu en passant par Salt Lake City depuis Washington, depuis Seattle, quoi. Donc, on s'est fait un.
Ah oui.
Ouais, une grosse semaine, on s'est fait un road trip.
Génial.
Avec les enfants qui n'étaient pas vieux, hein. J'étais souvent derrière hein, à faire l'animation, à gérer. Et après, le road trip le plus grand qu'on ait fait, c'est qu'on a déménagé de New York à Seattle en voiture.
Ouais, alors ça ne me parle pas, hein, donc
vas-y. De la côte est à la côte ouest.
Ah oui.
On a traversé les US.
La route 66
Ouais, non, c'était plutôt les 90. Mais on est passé. Je ne sais plus si on est passé dessus ou à côté, mais ouais, à un moment donné, ouais. Mais
ah
disons
oui.
Que ouais, c'était une option avec la boîte de mon mari. On pouvait traverser en voiture. Il payait la voiture, l'essence, les hôtels, les restos. Wow. Mais par contre, c'était tant de kilomètres par jour sur 8 jours. Quoi. Et les enfants, ils avaient 1 an et 3 ans.
Oh mon Dieu, 8 jours dans la voiture.
Donc, quand mon mari m'en a parlé, j'ai dit, mais t'es fou. Et puis, il a fait son chemin. Il se dit, vas-y, on y va. Quoi.
Allez.
Mais oui, c'était un peu de la folie. Et en même temps, c'était tellement génial.
Bah oui.
Parce qu'on a visité des endroits qu'on n'aurait jamais fait autrement. Autant, il y en a peut-être certains où on y retournera peut-être un jour, en prenant un avion ou autre. Mais il y en a d'autres où on n'y retournera pas. Enfin, je pense pas. Donc, on a fait plein de stops et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et on gérait pas mal la route le soir, notamment. On roulait pendant qu'ils dormaient, pendant les siestes. On roulait tard le soir. Donc, on arrivait des fois aux hôtels à 11h le soir, un truc comme ça. Et on les hop, on les transvasait dans le lit.
Ah.
Mais
ouais. Alors, à quel point la liberté est proche de la folie?
Ah, bonne question. Mais ouais, non, en fait, mais la folie, c'est toujours ça dépend où vous voulez le curseur de chacun.
Ben
en
oui,
fait.
Exactement.
C'est toujours une question de perspective. Mais oui, c'est vrai, il y avait un côté, ouais, mon côté rationnel, il disait, mais t'es pas bien, c'est de la folie, c'est n'importe quoi ton idée là. Et puis en fait, bah ouais, mais on est parti ouais, à l'aventure et on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais vécues
autrement. Mais oui, enfin, on
a
évidemment.
On a compris après coup que même on est passé par Yellowstone. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on était sur la semaine avant que les Américains soient en vacances, au mois de juin, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde, qu'on n'a pas fait mieux, qu'on pouvait se garer où on voulait. Et du coup, on a pu en profiter dans des conditions idéales. Donc ça, on ne le savait pas avant, on n'avait pas mesuré, mais après, on a compris. On a eu un peu plus de recul, on s'est dit « Ah, en fait, c'était vraiment un coup de bol, c'est cool
!» C'est que ça devait être fait comme ça.
Exactement. Et puis c'est là qu'on a vu les Badlands, tu pourras googler si tu veux. C'est des grandes étendues avec des petits monts, tu vois les streets, ces différentes couleurs un peu dans les rouges, roses. Enfin, un paysage qui ne touchera peut-être pas tout le monde, mais moi qui m'avait tellement touchée. Et c'est vrai que je ne serais pas passée par là, je n'aurais pas su à quel point ça aurait pu me toucher, parce que c'est quand tu es face à ça, dans ce silence, cette immensité. C'est, ouais, c'était hyper touchant. Ouais.
Ah, c'est
bouleversé.
Ouais, c'est passionnant de t'écouter, c'est passionnant, c'est passionnant. On voudrait en savoir plus, hein. Mais bon, à un moment, il faut conclure. Donc, comment on fait pour travailler avec toi? Tu travailles à distance?
Ouais, bah, je travaille forcément en présentiel pour le côté vraiment pur doula, que ce soit naissance ou postpartum. Après, toutes ces connaissances-là, je les utilise aussi à distance, dans un package plutôt parentalité. Mais après, j'aime bien l'idée de faire du cas par cas et d'ajuster en fait de quoi on va parler en fonction des besoins et ça peut changer en cours d'accompagnement et même si un sujet que la personne ne pensait pas aborder, bah finalement il s'agit d'être plutôt utile. Donc voilà, moi j'ai toute ma palette.
Fabuleux.
Et j'ai plaisir à accompagner à distance n'importe où dans le monde, en anglais ou en français ou les deux quand des fois il y a des couples franco-américains ici ou ailleurs. Mais voilà, donc moi, je suis...
Génial.
J'ai accompagné en France aussi. Enfin, c'est chouette d'apporter quelque chose si la personne se sent alignée avec ce que je propose.
Bah oui. Donc, je mettrai tout sous le podcast. Je mettrai ton lien sur ton site, évidemment.
Okay, super.
Et où on peut te retrouver pour travailler avec toi. Bah, merci beaucoup. Merci de ce partage. Merci infiniment de t'être levée de bonheur. Pour pouvoir faire ce podcast. C'était une merveilleuse rencontre. Merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, belle continuation. Puis, à très bientôt, peut-être, en France.
Oui,
ou alors, moi, aux États-Unis, va savoir. Va savoir.
On verra ce que l'avenir nous dit.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accueilli dans ton podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur cette thématique passionnante.
Merci. Et puis, bah, à très bientôt. Salut, Nolwenn.
Waouh! Extraordinaire! Un moment extraordinaire! J'espère que comme moi, vous avez des étoiles plein les yeux. On a voyagé dans différents endroits, de Yellowstone aux Badlands. Extraordinaire! On est passé d'une prof de sport à une doula. Et vous l'aurez certainement noté, au-delà de l'audace, c'est s'autoriser. Elle s'est autorisée un certain nombre de choses pour être là où elle en est aujourd'hui. On ne peut être qu'impressionné de son parcours parce que quand même monter une entreprise en parlant il y a quelque temps très peu la langue dans un pays inconnu, même si c'est le pays de l'entrepreneuriat, c'est un sacré parcours. Alors faites comme Nolwenn, essayez de sortir des sentiers battus, autorisez-vous ce que vous ne vous êtes jamais autorisé, osez. Pour faire des petits pas vers vous, des petits pas pas toujours très sages, mais des petits pas. Je vous souhaite d'excellents moments. À dans 15 jours!